Chapitre 26. Le deuxième duel de Capestan et de Saint-Marc. Capestan était demeuré tout étourdi, d'abord de la singulière chance exceptionnelle qui, pour la première fois où il mettait les pieds dans un tripot, le faisait riche de tout près de 2000 livres, ensuite de sa rencontre avec Marion Delorme, qui, chose étrange, ne lui avait pas dit un mot de cet amour dont elle l'avait poursuivi, enfin de cet avertissement qu'elle venait de lui jeter en s'enfuyant. « Qu'est-ce que je puis bien avoir fait à ce monseigneur de Luçon ?» Tout en raisonnant, notre héros s'avançait vers le pont au change, la main sur la garde de la rapière, l'oreille tendue, l'œil aux aguets, s'attendant à voir tomber sur lui Louvignac et Bazorges et s'apprêtant à les recevoir de son mieux. Il arriva au rendez-vous assigné. Ne voyant personne, il fit quelques pas sur le pont en redoublant de vigilance, car chacune des maisons bâties des deux côtés du pont pouvait être un abri pour les assaillants. Comme il s'arrêtait, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit une ombre qui s'avançait. L'ombre demanda « Est-ce vous, monsieur le chevalier de Capestan ?»« Je le calomniais, il est seul, » songea le chevalier. « Oui, monsieur de Louvignac, » répondit-il, « c'est moi, tout à votre service. »« Bon, » dit Louvignac d'une voix qui vibra étrangement, « tenez-vous bien, je vous charge. » Capestan vit l'éclair d'une épée. Dans la même seconde, il fut en garde, la rapière au poing, et presque en même temps, il fit un bond en arrière en poussant un sourd juron, car ce n'était plus un homme, une épée qu'il avait devant lui. C'étaient 6 hommes qui surgissaient, c'étaient 6 épées qui flamboyaient, c'étaient les spadassins de Concini que Bazorges avait été chercher. Et Capestan reconnut la voix de Rinaldo qui hurlait « Ah, capitaine de malheur, cette fois tu es mort !»« Pas encore, » rugit Capestan. Et par une manœuvre qui lui était familière depuis longtemps, il saisit sa rapière par la lame et se mit à faire tourbillonner le pommeau en un moulinet vertigineux. À ce jeu, il risquait de se couper la main, mais il triplait sa force. 2 épées tintèrent, brisées comme verre. Un des hommes s'affaissa, atteint au front par la terrible masse d'acier qui tournait, enveloppait Capestan comme d'une cuirasse. Des hurlements de rage éclatèrent. Coup sur coup, Rinaldo, Pontrail, Montreval se fendirent à fond et se relevèrent en jurant comme des possédés. « Corpo di Cristo !» vociférait Rinaldo. « Il a une côte de maille !»« Ventre du pape !» hurla Bazorges. « Mon épée est cassée !» Capestan, les dents serrées, l'œil exorbité, poursuivait son moulinet furieux. Il bondissait d'un bord à l'autre du pont, il portait un coup de pommeau, puis d'un recul se mettait à l'abri. Mais cela ne pouvait durer longtemps. Déjà, il était atteint à l'épaule et sentait son bras s'appesantir. Les poignards étaient sur sa poitrine. L'un d'eux fendit son pourpoint. Il haletait. Une sueur froide lui inondait le visage. Un brouillard voilait ses yeux. « Su, su !» rugit Rinaldo. « Il est à nous !»« Achève, achève !» vociférèrent les bras avis. Un dernier effort, un dernier bond, Capestan épuisé, s'adossa à la porte d'un des logis et, à ce moment, comme il voyait flamboyer les yeux des assassins, comme il sentait sur sa figure leur haleine brûlante, il eut ce rugissement de l'être qui se voit sauvé, ne fût-ce que pour quelques secondes. La porte s'ouvrait. Il la poussa d'un effort de tous ses muscles tendus, entra comme une trombe dans le logis et repoussa la porte, tandis que, au dehors, éclataient les imprécations des 6 qui, unissant leurs forces, pesaient de tout leur poids pour ouvrir à leur tour. Une voix près de Capestan, une voix étrange de calme, murmura « Montez jusqu'en haut par cet escalier et ouvrez la fenêtre qui donne sur le fleuve. » Sans voir celui qui parlait, sans se demander d'où venait cette voix, Capestan se retourna, vit l'escalier de bois et s'y rua au moment où la porte craquait et où Rinaldo criait à tue-tête « Ouvre, Lorenzo! Ouvre! C'est moi! C'est nous !» Dans le même instant, la porte s'ouvrit, la bande fit irruption. « Ah, per la Madonna !» dit le nain. « C'est donc le diable qui est entré chez moi ?»« Par là, signor Rinaldo, par cet escalier. Le drôle est monté là, après m'avoir à demi assommé. Tue, tue !» La bande, enragée, sanglante, Rinaldo en tête, bondit dans l'escalier. En quelques instants, Rinaldo eut atteint la chambre du haut. Il aperçut la fenêtre ouverte. Il se pencha et vit une échelle de corde. Ses compagnons, fous de rage, fouillaient la maison. « Par là !» hurla Rinaldo. « Il a fui par là !» Il était brave, Rinaldo. Sans plus d'explication, il mit son poignard entre ses dents et commença à descendre. Il arriva au dernier échelon qui trempait dans l'eau, regarda de tous ses yeux et ne vit rien, écouta de toutes ses oreilles et n'entendit que le clapotement des eaux contre les piles du pont. « Malédiction » gronda-t-il. Et il remonta. À la fenêtre se pressaient quatre têtes convulsées. Les spadassins, en voyant remonter Rinaldo, comprirent que Capestan leur échappait. Louvignac voulait se jeter à l'eau pour essayer de le rejoindre, car, dans son idée, le fugitif s'était laissé aller au fil de l'eau. « Non, » dit Rinaldo en reprenant son sang-froid, « tu te noierais, mon pauvre Louvignac, et nous ne sommes déjà pas de trop. Maître Lorenzo, que signifie cette échelle de corde ?»« Pour certaines manipulations ésotériques, j'ai besoin d'eau vive, d'eau courante, entendez-vous ? Je vais en chercher par là, voilà tout. » Les bandits frissonnèrent. La terreur superstitieuse, en une seconde, glaça leur fureur. Ils se sentaient mal à l'aise dans ce logis du diable. Ils se retirèrent donc en saluant avec respect le nain qui les invita vainement à vider une bouteille ou deux de vieux Bourgogne. Quand ils furent partis, Lorenzo, à son tour, se pencha sur le fleuve et, après une longue inspection, murmura « Ah ça, qui ai-je sauvé ? Bon, Rinaldo me dira son nom. » Il essaya de se remettre à une opération chimique dont il s'occupait au moment où le vacarme infernal que faisaient les combattants l'avait incité à aller voir ce qui se passait. Mais une sorte d'étonnement paralysait son cerveau, d'ordinaire si actif. « Pourquoi ai-je sauvé cet inconnu ? » reprit-il tout pensif. « Simple affaire de nerfs, sans doute. Il allait être égorgé. Je n'avais qu'à ouvrir la porte pour empêcher cet égorgement. » J'ai ouvert sans savoir ce que je faisais. Oui, oui, ce sont les nerfs. J'ai horreur du sang, moi. Le poison, à la bonne heure. Cela ne hurle pas, cela tue tout doucement. Cette brute de Rinaldo ne comprend que le poignard. Il demeura longtemps silencieux. Puis, en manière de conclusion, sans doute, il ajouta « Avec Gisèle d'Angoulême, cela fait deux que je sauve. Oh, quelle fatalité s'est donc abattue sur moi !» Moi ? Moi ? Le marchand de mort ? Capestan avait facilement abordé à l'extrémité de l'île. « Belle bête !» dit Capestan en amarrant à un madrier la petite barque qu'il avait sauvée. « Mais elle ne vaut pas mon fanlaire. » Parlait-il de la barque ? Nous ne l'avons jamais su, et lui-même, sans doute, ne le savait pas. Il parlait, pour donner essor, à la joie puissante qu'on éprouve à se voir vivant quand on vient d'être frôlé par l'aile de la mort. Il exultait donc, et sifflant une fanfare, il se dirigea tout naturellement vers la rue Dauphine qui s'ouvrait devant lui. Son cœur se mit à battre lorsqu'il distingua la sombre masse de l'hôtel d'Angoulême. Il s'arrêta à l'angle de la rue, dans un renfoncement, d'où il distinguait faiblement cette porte dont la fée de Meudon lui avait indiqué le secret et qu'une nuit, il avait ouverte, palpitant d'espérance. Où était-elle, l'espérance, maintenant ? Gisèle, mirage que je n'atteindrai jamais ! Où êtes-vous, Gisèle ? Et cette pensée, tout à coup, le fit vibrer et tressaillir jusqu'au fond de l'âme que peut-être elle était là. Il y était pourtant revenu dans cet hôtel, il y était entré, il l'avait parcouru de fond en comble, et il n'avait trouvé que la solitude. Longtemps, le chevalier de Capestan demeura là, éperdu, immobile et tremblant. Tout à coup, il vit distinctement la porte de l'hôtel s'ouvrir et un homme en sortir qui se mit à remonter la rue Dauphine. « Oh ! Songea Capestan, la tête en feu, l'esprit bouleversé. Je ne me trompe pas. Cette tournure, cette démarche, je le reconnaîtrai au milieu d'une armée. C'est lui ! C'est bien lui !» C'était Saint-Marc. D'un mouvement impulsif, Capestan se mit en marche à 50 pas derrière le jeune marquis. Pardieu, gronda-t-il, puisque ce freluquet tenait tant à me tuer lorsqu'il était en nombreuse compagnie, je veux voir s'il est toujours dans les mêmes intentions maintenant qu'il est seul. » Et il pressa le pas. À l'instant où le chevalier s'apprêtait à s'élancer et à interpeller Saint-Marc, il s'arrêta court. D'entre les palissades de la rue, trois hommes venaient de se glisser. Déjà, ils entouraient Saint-Marc et Capestan entendit une voix rocailleuse qui ricanait. « Votre bourse, monseigneur, ou à défaut de bourse, nous prenons la vie. »« Au large, truand !» cria Saint-Marc d'une voix ferme. « Ah, à moi, au truand, en me !» La voix s'étouffa. Peut-être le marquis était-il bâillonné. Capestan vit le groupe informe qui s'agitait confusément. Nous avons dit qu'il s'était arrêté. Cet arrêt dura 2 secondes. Une pensée traversait le cerveau du chevalier. Une pensée. Puis, tout à coup, il se rua, fonça furieusement et se hurla à lui-même. « Je ferai cela, moi, je laisserai tuer un homme sans bouger. Ah, misérable cœur, je te vomirai de dégoût pour avoir osé concevoir une seconde une aussi affreuse vilenie. Hola, hola, tenez bon, monsieur, on vient, vous êtes sauvé. » Il ne s'était pas donné la peine de dégainer. D'un bond, il tomba à bras raccourcis sur les trois malandrins, assomma à demi d'un coup de poing le premier qui se présenta à lui, envoya rouler le deuxième jusque sur les palissades et saisit à la gorge le troisième qui, tout pantelant, n'eut que le temps de crier « Grâce !»« Va-t'en !» gronda le chevalier. « Allez-vous-en, ou par les cornes de votre patron Satanas, je vous éventre avec vos propres poignards pour ne pas salir ma rapière !» Tout étourdis, tout saignant, ahuris d'épouvante, les trois malandrins s'enfuirent en se disant « C'est le diable en personne !» Déjà, Capestan se penchait sur Saint-Marc, arrachait le baillon qui l'étouffait et l'aidait à se relever. Saint-Marc respira longuement, puis, d'une voix émue, « Sans vous, monsieur, j'étais mort. Votre nom, je vous prie, que je le répète à tous ceux qui m'aiment, depuis mon père jusqu'à ma fiancée, afin qu'ils prient pour vous tant qu'ils vivront. » Capestan tressaillit violemment. Il recula de 2 pas et, d'un accent de sombre amertume, « Il est inutile que votre fiancé prie pour moi, monsieur de Saint-Marc. Je ne vous dirai donc pas mon nom. Tant mieux si vous ne me reconnaissez pas. Moi, je vous jure, je n'ai pas eu besoin de votre nom pour vous reconnaître. » « Capestan !» bégaya Saint-Marc, frappé de stupeur. « Peu importe. Adieu, monsieur. J'espère vous retrouver un jour que vous serez en état de tenir une autre conversation que celle-ci. » « Capestan !» répéta Saint-Marc sans entendre cette provocation, ému par l'acte de générosité de son ennemi, d'une de ces puissantes émotions qui bouleversent un cœur et déracinent ses haines. Et, entraîné par un irrésistible mouvement, il allait courir après Capestan, qui déjà se retirait, lorsque le chevalier, revenant soudain sur ses pas, avec un rire étrange, « Pardieu, j'oubliais que je me suis chargé d'une commission, que j'ai promis de vous chercher, de vous trouver. » Une commission, balbutia le jeune marquis, interdit de ce rire funèbre et de cet accent furieux, plus encore que des paroles. « Et de quel pas ?»« De mademoiselle Marion Delorme. » Un frémissement de rage secoua Saint-Marc. Il devina, ou crut deviner une raillerie, une insulte dans ses mots. Il aimait Marion. Dès le premier instant où il l'avait vue, la passion était entrée en lui. Mais, dès le premier instant aussi, il avait vu Marion éprise de Capestan et il s'était mis à le haïr. Puis était venu le fameux dîner à l'hôtellerie des Trois Monarques, dîner où, selon les apparences, Capestan l'avait indignement joué, puisqu'à la suite même de cette réconciliation était venu ce qu'il appelait la trahison de Marion. Et maintenant, cet homme était l'amant de la perfide Marion. Cet homme l'insultait, l'accablait, en lui signifiant hautement que sa liaison avec Marion durait toujours. « Monsieur, dit Saint-Marc en grinçant les dents, vous êtes encore sous la protection du service que vous venez de me rendre, mais prenez garde de me pousser à bout. » « Je ne vous comprends pas, fit le chevalier. En tout cas, vos impertinences pourront peut-être me forcer à vous couper les oreilles, mais elles ne peuvent me faire oublier que j'ai donné ma parole à une femme. » Que cela vous plaise ou non, vous saurez donc que j'ai, ce soir même, eu l'honneur de rencontrer Mademoiselle Marion Delorme. » De la rencontrer, vous ne la voyez donc pas tous les jours ? Saint-Mars était en effet sincèrement convaincu que Capestan passait son existence aux pieds de Marion comme Hercule aux pieds d'Omphale. « Vous me faites pitié, dit Capestan, et vous m'exaspérez à la fin avec votre Marion. Est-ce que je la connais, moi ? Est-ce que je veux la connaître ? Mais finissons-en, monsieur, voici en propre terme ce que j'ai accepté de vous faire savoir. Elle vous attend à l'hôtellerie des Trois Monarques. » Elle m'attend ? Bégaya Saint-Mars, à qui Capestan apparut à ce moment comme l'ange dut apparaître à Jacob. Le chevalier haussa les épaules. « Elle vous attend parce qu'elle est menacée d'un danger dont vous seul pouvez la tirer. Voilà ce que j'ai donné ma parole de vous répéter. Adieu, monsieur !» Saint-Mars se jeta au devant du chevalier. Il était rayonnant, il était ivre de passion. « Et menacée d'un danger, et ce n'est pas à vous qu'elle s'adresse ? C'est moi qu'elle appelle, c'est moi qu'elle attend ? Oh, mais ce n'était donc pas vrai ? Ce misérable Laffemas a donc menti ? Oh, mais elle ne vous aime donc pas ? Répétez, par grâce, elle m'attend, moi seul puis la sauver ? Eh, monsieur, voilà une heure que je me tue à vous le dire. Adieu !» Chevalier, s'écria Saint-Mars, nous ne pouvons nous quitter ainsi. Chevalier, sachant qui j'étais, après ce que j'ai dit et fait contre vous, vous venez de me sauver la vie. Je vous le dis, moi, c'est grand, c'est généreux, c'est sublime ce que vous avez fait là. Et non content de me sauver la vie, vous me rendez l'espoir sans lequel cette vie m'était à charge. » Capestan écoutait ces paroles avec une joie terrible. Chacune d'elles était une pelletée de terre comblant l'abîme qui le séparait de Gisèle. « Je vous le dis, chevalier, continuait Saint-Mars délirant, je vous dois donc plus que la vie. Tenez, je vous en prie. » Il allait dire, « Soyons amis, voici ma main. » Oui, il allait tendre sa main. Dans cet instant, un nuage descendit sur son front assombri. L'image de Gisèle se présenta à lui soudain. Et, chose étrange, Saint-Mars, qui n'aimait pas Gisèle, avait deviné, il ne savait quoi, de profond entre Gisèle et Capestan. Et Saint-Mars, qui n'aimait pas Gisèle, qui venait de reconquérir Marion, Saint-Mars comprenait qu'entre lui et le chevalier, la lutte allait se porter plus terrible sur un autre terrain. Et son cri d'amitié perdu lui rentra dans la gorge. Et sa main, prête à se tendre, retomba. Il y eut entre les deux hommes un bref silence d'attente et d'angoisse. Et, comme si chacun d'eux eût soudain compris qu'ils n'avaient plus rien à se dire, d'un même mouvement, ils se découvrirent, se saluèrent, et presque ensemble, ils murmurèrent « Adieu !»